sommes pas dans la cible que nous nous étions fixée au moment de l'accord de Paris. Et en particulier, à horizon 2030, pour la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre.
C'était Emmanuel Macron, lundi dernier, devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour Karine.
Il souhaite une transition plus rapide vers une industrie automobile décarbonée. Dominique Seul l'évoquait ici même hier matin, mais votre enquête montre que les constructeurs font encore de la résistance.
Oui, et cette résistance, elle revêt plusieurs formes. D'abord, ils privilégient encore des véhicules très lourds. Ça peut sembler incompréhensible aujourd'hui, puisque qui dit véhicule lourd dit véhicule plus polluant. Mais Nicolas Meillan, économiste et conseiller pour France Stratégie, nous explique pourquoi ils ont intérêt à le faire.
Ils gagnent de l'argent à vendre des voitures lourdes. Plus elles sont lourdes, plus ils gagnent de l'argent. La marge sur une voiture, c'est proportionnel à son poids. Peugeot arrête la 107. Citroën arrête la C1. Ford arrête la Ford Ka. Fiat, il me semble, arrête la Fiat 500 thermique. Pourquoi ? Puisque ces voitures-là qui coûtent peu cher, il n'y a plus assez de marge pour permettre à la fois de payer la baisse des émissions de CO2 et la dépollution des moteurs. Aujourd'hui, la réglementation vous incite à vendre ce qu'on appelle un tank électrique.
Un tank électrique. Parce que ces grosses voitures, ce sont de plus en plus des hybrides. Donc a priori, des véhicules moins polluants. Sauf que c'est loin d'être évident. Dans certaines conditions de roulage, les hybrides ne sont pas aussi vertueuses que l'on croit. Mathieu Ozano, qui plaide avec son think tank, le Shift Project, pour des véhicules plus légers, l'a constaté chez les chauffeurs de taxi, par exemple.
Je pose systématiquement la question aux taxis qui roulent en Prius. Ils sont tous à 5 ou 6 litres au 100 dans une voiture hybride. Pourquoi est-ce que les voitures hybrides ne donnent pas des résultats spectaculaires en termes d'émissions ? Eh bien parce que vous avez alourdi le véhicule. Là où il y avait un seul moteur, vous en avez mis deux. Par rapport à une voiture de sa même catégorie, en thermique pure, vous avez gagné 1 ou 2 litres au 100. C'est pas du tout significatif.
Pas significatif, parce qu'ils ont deux moteurs au lieu d'un, sans compter plusieurs centaines de kilos de batterie, ce qui nécessite un effort supplémentaire de traction et donc un dégagement supplémentaire de CO2.
Et des émissions de CO2 qui sont en réalité toujours supérieures à ce qui est affiché par les constructeurs.
Effectivement, malgré le Dieselgate, qui date déjà de 2015, les émissions de CO2 mesurées lors des tests des véhicules neufs en laboratoire par Bruxelles, et donc affichées sur les certificats de conformité, restent inférieures à celles qui sont produites en réalité. C'est ce qu'a pu établir un polytechnicien, Aurélien Bigot. L'écart qu'il trouve entre les chiffres officiels et la consommation réelle est assez spectaculaire.
Cet écart a été croissant sur les années 2000, jusqu'à atteindre de l'ordre de plus 35%. En 2017, donc c'est toujours à peu près le cas actuellement, donc ça veut dire que quand on achète un véhicule en usage réel, il consomme à peu près un tiers de carburant en plus que ce qui est affiché par les constructeurs.
Et ces constructeurs ont trouvé un autre stratagème pour échapper aux amendes que Bruxelles a prévu de leur infliger en cas de dépassement des émissions de CO2. Ils créent des alliances avec des concurrents plus verts pour mutualiser leurs ventes. C'est ce qu'a fait notamment Fiat avec Tesla pour pouvoir vendre ses Fiat 500 sans dépasser les normes autorisées. Écoutez ce qu'en dit Lucien Mathieu du bureau de l'ONG Transport et Environnement à Bruxelles.
Certains constructeurs sont en fait en retard sur la réduction de leurs émissions de CO2 et notamment sur l'électrification de leur flotte et n'ont d'autre solution que de payer des concurrents pour bénéficier de l'avance de leurs concurrents. En anglais, on l'appelle le pooling. En français, je pourrais traduire cela par la mutualisation et mettre en commun leurs ventes. C'est ce que fait en ce moment Fiat Chrysler et Tesla. Ça peut vous aider et vous éviter de payer des pénalités à Bruxelles.
Et ils sont plusieurs à le faire. Volvo s'est allié à Ford, Toyota à Mazda. En fait, seuls Jaguar Land Rover et Volkswagen ont prévu de payer des amendes et ont provisionné de l'argent pour cela.
Merci Philippe Reltien. Transition écologique, comment l'industrie automobile fait de la résistance. C'est donc une enquête à écouter en intégralité demain à 13h20 dans Secret d'Info sur France Inter.